100% d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, le Brexit est en marche. Voilà déjà 8 mois que le référendum a tranché, mais il faudra compter au moins 2 ans de négociations et encore plus si le Royaume-Uni veut obtenir un accord de transition, ce qui nous amènerait à 2020. Une longue période d'incertitude donc, typiquement ce que fuient généralement tous les acteurs économiques, banquiers, entrepreneurs. Quelles sont les stratégies que vont emprunter ces acteurs économiques dans les prochaines années ? C'est le reportage de Marie Billon.
Les immeubles de verre sont encore debout, d'autres sont toujours en train de sortir de terre. Contrairement aux prédictions apocalyptiques quant au devenir du quartier financier de Londres, la City est toujours vivante. Il est vrai que le Brexit n'a pas encore été déclenché pour de bon, mais ses rues grouillent tout autant d'hommes en costard-cravate et de femmes en tailleur. Et dans Guildhall, la mairie médiévale de l'arrondissement, le discours a changé du tout au tout. Jeremy Brown est un ancien député et secrétaire d'État. Il est désormais le représentant de la City en Europe.
City of London is a global financial center.
Nous sommes une place financière mondiale. Je ne peux donc pas nier que si des barrières se dressent entre nous et l'UE, cela n'aura pas d'implication. Cela dit, il ne faut pas exagérer ses conséquences. Il y aura encore beaucoup d'opportunités pour nous en Asie, en Afrique et même sur le continent. Par exemple, la Norvège a un large fonds souverain et les entreprises continueront à venir s'installer ici. Je suis persuadé que dans 20 ans, Londres sera encore la plus grande place financière d'Europe.
Fini le catastrophisme donc, devant une dizaine de journalistes représentant la presse internationale, le discours de Jeremy Brown est désormais combatif.
It would be to try and encourage people across the European Union to see the City of London.
Je voudrais encourager tout le monde à voir la City comme un atout pour toute l'Europe, pas seulement pour le Royaume-Uni. Il ne faut pas penser que l'affaiblissement de la City n'est un problème que pour notre pays, voire même que cela peut faire les affaires d'autres endroits en Europe. Londres est l'unique place financière mondiale de l'Union européenne. Londres n'a d'équivalent qu'à New York ou Singapour, et la place est bénéfique à toute l'économie européenne.
European financial centers and it benefits the economy of Europe.
Du haut de la tour médiévale de la City, Jeremy Brown semble avoir oublié les propos de celui qui occupait alors les bureaux en verre de la mairie de la ville. En 2012, Boris Johnson proposait de dérouler le tapis rouge pour les entreprises françaises qui voudraient fuir le régime fiscal de François Hollande, alors fraîchement élu. Depuis, la situation s'est inversée, le Brexit est passé par là et c'est Paris qui a entamé une opération séduction. Elle a d'abord été assez agressive, voire vindicative, mais elle est désormais tout en douceur. Une autre tour, en vert cette fois, juste en face de la City, de l'autre côté de la Tamise. C'est au 35e étage de l'un des plus hauts immeubles d'Europe, le Shard, qu'une délégation française et d'Europlace, l'organisme représentant le quartier d'affaires de la Défense, a invité plusieurs dizaines de représentants d'entreprises britanniques. La réunion se tenait à huis clos début février et Gérard Mézralet, président d'Europlace, contredit certains points du discours de Jeremy Brown.
Nous sommes depuis toujours des amis de Londres. Maintenant, il y a le Brexit. Et le Brexit va entraîner pour ces institutions financières une situation complètement nouvelle. En particulier, la disparition du passeport financier. Jusqu'à présent, une banque américaine, par exemple, basée à Londres, pouvait, grâce au passeport financier, opérer dans tous les 27 autres pays. Demain, ça ne sera plus possible. Nous sommes là pour leur dire, bienvenue, nous avons un certain nombre d'atouts. Il y a, en Europe, seulement 2 grandes ville globale de taille mondiale, c'est Londres et Paris. Et donc, il n'y en a qu'une en Europe continentale, c'est Paris.
Et c'est vrai, les entreprises songent à déménager, ou pour reprendre l'expression plus pudique et généralement utilisée, elles sont prêtes à opérer quelques ajustements. La banque HSBC a déjà annoncé qu'elle allait envoyer environ 1 000 emplois à Paris. Andrew Williams a écouté avec intérêt ce que la délégation a dit ce matin. Son cabinet d'avocats international, Simons & Simons, conseille plusieurs grandes banques.
Je pense qu'aucune entreprise ne va quitter Londres pour de bon. Certaines voudront délocaliser une partie de leurs activités. L'ampleur du déménagement dépendra de l'accord que Theresa May aura pu obtenir auprès des Européens. Si elle obtient un accord qui correspond à la situation actuelle, le déménagement sera peut-être minime. Le problème, c'est que ces entreprises ne peuvent pas attendre la fin des négociations d'ici 2 ans. Elles doivent se préparer bien à l'avance.
Voilà pourquoi certains représentants présents au Shard confient qu'ils vont semer tout ou une partie de leurs activités dans plusieurs villes, pas seulement à Paris ou à Francfort par exemple, mais dans plusieurs grandes métropoles européennes et au-delà. Ils ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier tant qu'ils ne savent pas ce que la City et l'Europe tout entière deviendront après le Brexit. Mais les petites entreprises, elles, ne peuvent pas s'offrir ce luxe. Certaines pourront attendre, d'autres sont pressées. Thierry Rodier est le fondateur d'une société de courtage en énergie, Zark Capital. Il compte prendre sa décision dans les 6 prochains mois.
L'idée serait probablement de garder un bureau à Londres. On a une partie de notre activité qui est de toute façon pas réglementée. Et l'activité qui est réglementée et qui a donc besoin du passeport européen, si l'Angleterre quitte le marché unique, il faudra nous qu'on ouvre un bureau à Paris ou à Madrid.
C'est un coup dont l'entreprise se serait bien passé. Mais le monde de la finance n'est pas le seul à se préparer à faire des ajustements. Les industries sont elles aussi face à un choix difficile. David Caro a créé Qualplast à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, il y a 40 ans. Il fabrique des pièces automobiles.
La dévaluation de la livre complique les choses. Les composants que nous utilisons proviennent du continent et leur prix a augmenté d'environ 15%. Nous envisageons donc de délocaliser une partie de notre activité en République tchèque ou en Slovaquie, où se délocalise déjà Jaguar. Certains de nos fournisseurs y sont aussi.
Pour David Caro, si le déménagement en Europe de l'Est serait peut-être arrivé tôt ou tard, il s'est certainement accéléré à cause du Brexit.
Le revenu minimum, véritable serpent de mer européen, s'il n'existe aucune harmonisation à l'échelle des 28, les disparités sont même très grandes. On peut se réjouir en revanche que de nombreux pays ont adopté assez récemment le principe d'un revenu minimum, comme l'Allemagne par exemple. Pour faire le point, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Pour commencer, Daniel, le SMIC français reste-t-il l'un des plus élevés d'Europe en ce début 2017?
Disons que les derniers chiffres publiés par l'Office européen des statistiques, Eurostat, montrent que la France se situe clairement dans le groupe des pays européens accordant un salaire minimum généreux. Mais à 1480 euros bruts mensuels, au 1er janvier 2017, le SMIC français ne vient qu'en 6e position des salaires minimaux européens. À l'exception du très riche petit Luxembourg qui offre un confortable plancher de 2000 euros à ses salariés, Irlande, Pays-Bas et Belgique leur accordent autour de 1550 euros. Quant à l'Allemagne, qui a fini par adopter, on le sait, il y a 2 ans, un salaire minimum global au niveau fédéral, elle est désormais légèrement au-dessus de la France avec un SMIC pratiquement égal à 1500 euros depuis son augmentation de 4% le 1er janvier 2017. À l'inverse, le Royaume-Uni se montre un peu moins généreux que l'Hexagone en accordant environ 1400 euros, mais c'est sans commune mesure avec les maigres 826 euros que se voient garantir les travailleurs espagnols.
Et vous ne parlez pas de la Scandinavie ?
Non, car il n'existe aucun salaire minimum ni en Suède, ni en Finlande, ni au Danemark. Et il n'y en a pas davantage en Italie et en Autriche.
Et où en est-on à l'est de l'Europe ?
Là-bas, bien sûr, le niveau de vie est sans commune mesure avec celui de l'Europe occidentale. Un nouveau membre se distingue toutefois, c'est la Slovénie, avec son SMIC à 805 euros. La plupart des pays d'Europe centrale et de la Baltique n'accordent qu'entre 380 et 450 euros mensuels. Et puis, loin en queue de peloton, on trouve la Roumanie, 275 euros, et surtout la Bulgarie, où les 235 euros de salaire minimum ont fait ces dernières années de ce pays un Eldorado pour la délocalisation de la fabrication de vêtements. an.
Et qu'en est-il des progressions de ce salaire minimum ?
De 2008 à 2017, le SMIC a été augmenté de 16% en France, et c'est une proportion que l'on retrouve peu ou prou dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Cette hausse correspond en gros à la compensation de l'inflation, agrémentée d'un tout petit plus. Bref, ces États membres ne pratiquent pas de politique volontariste de hausse des bas salaires. Il y a une exception en Europe concernant l'évolution du SMIC, c'est la Grèce, où la véritable purge économique exigée par l'Union européenne s'est traduite par un recul de 14% du salaire minimum depuis 11 ans. À l'opposé, on constate que de très fortes revalorisations du SMIC se sont produites dans la plupart des pays de l'Est européen.
N'y a-t-il pas là un effet de l'inflation ou des dépréciations monétaires ?
Au début de la période 2008-2017, l'inflation a été effectivement plus forte en moyenne à l'Est de l'Europe qu'à l'Ouest. Et elle s'est maintenue à un niveau plus élevé en Roumanie. Mais le différentiel n'est pas considérable. Quant à la dépréciation des monnaies pour les pays qui n'ont pas rejoint l'euro, elle a été pratiquement nulle en République tchèque et en Bulgarie, un peu plus sensible en Pologne et Roumanie, environ 25% de dépréciation des monnaies locales sur 9 ans, mais seule la Hongrie a enregistré une forte dépréciation, le forint hongrois ayant chuté de 47% face à l'euro au cours de la période. En tout état de cause, ces constats ne viennent pas démentir la réalité d'une très forte progression des salaires minimaux en termes réels à l'est de l'Europe.
Et cette progression ne fait vraiment aucun doute.
Eurostat fait des comparaisons en termes de parité de pouvoir d'achat. PPA pour les spécialistes. Ce qui revient à égaliser pour tous les pays ce qu'un niveau donné du SMIC vous permet d'acheter dans la vie courante. Par exemple, en 2008, le SMIC polonais vous permettait d'acheter en Pologne 2,5 fois moins de biens que le SMIC français en France. En 2017, ce différentiel n'est plus que de 1,6. En clair, le pouvoir d'achat des Polonais rattrape celui des Français. À l'Est, les progressions du SMIC en PPA sont spectaculaires en 9 ans. 63% en Slovaquie, 80% en Hongrie, 85% en Pologne et même plus de 120% en Bulgarie et près de 140% en Roumanie. C'est véritablement historique et cette convergence des pouvoirs d'achat du SMIC est l'une des réussites les plus éclatantes de l'Union européenne qui a su, par ses financements, redistribuer croissance et revenus au sein d'un ensemble très disparate.
Merci Daniel Vigneron du site myeurope.info. À la semaine prochaine. Sur les traces des déportés de Drancy et du convoi 73, l'unique convoi de juifs envoyé par les Allemands dans les pays baltes, 878 hommes sont arrivés au fort neuf de Kaunas en Lituanie le 15 mai 1944. Des hommes parmi lesquels se trouvaient le père et le frère de la femme politique française Simone Veil. Seules 22 personnes ont survécu et il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul rescapé vivant, Henri Seidenberger. Adolescent à l'époque, il a aujourd'hui 89 ans. Des lycéens de Chartres l'ont rencontré et ont décidé de refaire le chemin de sa déportation. Une classe qu'a rencontré Marielle Vituro à Kaunas, en Lituanie.
Déjà, la plus importante, je pense que c'est nous sommes 900 Français. On a aussi les villes où ils sont allés pour laisser une trace. La Drancy, Paris, Kaunas. On a le 18 mai 44.
Dans l'une des salles du Fort Neuf de Kaunas, les déportés français ont gravé dans le mur une trace de leur passage. Axel Chambard, en terminal littéraire, lit ces inscriptions avec émotion.
Quand on lit ou qu'on entend des choses, on ne peut pas vraiment s'imaginer. C'est marquant parce que justement, on se demande comment on aurait pu vivre ça, nous.
Dans la salle où les photos des 878 déportés sont exposées, les 16 lycéens de Chartres cherchent Henri Seidenberger, alors jeune homme. C'est la rencontre organisée entre le rescapé et les élèves qui a été le déclencheur de ce voyage. Christophe Lezenvant, professeur d'histoire au lycée Marceau, l'a initié.
J'ai participé à un voyage organisé par le Mémorial de la Shoah. J'ai eu l'occasion de rencontrer le dernier survivant du convoi 73 que j'ai fait intervenir au lycée. En tant que professeur d'histoire, le témoin, c'est un document historique qu'on croise ensuite avec d'autres sources, quoi. Les élèves sont la dernière génération à pouvoir rencontrer des témoins vivants, des acteurs de cette période de l'histoire. À la même époque est tombé le sujet du concours national de la résistance et de la déportation. La négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi Et ça a fait écho chez les élèves. Ils se sont dit qu'ils pouvaient très bien étudier ce thème-là à partir de, à l'échelle d'un être humain et d'une expérience individuelle.
Pourquoi ce convoi a pris la direction des Pays-Baltes? Les explications de la guide Juraté sidèrent les lycéens.
On ne sait pas pourquoi ce convoi est parti vers Kaunas. Probablement, c'est dû au fait qu'à la fin de la guerre, à partir de 1943, on a commencé à déterrer les cadavres des personnes fusillées avant et les brûler. Et probablement, ils avaient besoin des personnes qui ne savaient rien, qui ne parlaient pas la langue locale, qui ne pouvaient pas être témoins de ces crimes.
En France, les lycéens se sont rendus à Angoulême, Poitiers et Drancy, lieu de passage de Henri Seidenverger avant sa déportation, avant à leur tour de partir vers les Pays-Baltes et le camp polonais de Stutthof, où le rescapé a passé quelques mois à la toute fin de la guerre. Marcher sur ces traces a marqué Jérôme Bélis en classe de première.
À notre âge, il s'est retrouvé dans la neige, dans le froid, à devoir travailler, et c'est ça qui est assez marquant, parce que nous, déjà juste quand on est allé au camp et qu'on a ressenti le froid, qu'on a marcher dans la neige alors qu'on avait des vêtements chauds, on ne comprend pas vraiment comment il a réussi à survivre.
Pour Lucas Ello, en classe de seconde, ce voyage permet de replacer la guerre dans son contexte européen.
J'ai une arrière-grand-mère qui était parisienne et elle parlait un petit peu de cette période-là. Plus ces petits moments de bonheur qu'elle a pu décrocher pendant ces 5 années malheureuses. Et nous, voilà, version française, tout ce qu'on a vu et subi dans notre pays. Et là, on voit vraiment ce qui s'est passé dans les autres. Et à quel point c'était atroce, surtout dans l'Est, avec la Shoah par balle. Comment les exploiter pour ça, pour cacher les crimes de guerre.
Tous mordus d'histoire, réunis dans un club, les 16 lycéens se sont débrouillés eux-mêmes pour organiser ce voyage, en trouvant notamment les financements nécessaires. Mais pour Jérôme Bélis, derrière ce projet, il y a une démarche républicaine.
Quand on regarde le terrorisme, ça revient à la même chose que le nazisme. C'est les mêmes méthodes, l'embrigadement, etc. Ils utilisent une religion alors que c'est pas du tout les propos de cette religion. C'est notre mode de vie, de tout ce qu'on fait. Et nous, on n'a pas envie de changer nos modes de vie. Et on ne le laissera pas changer. Alors on montre qu'on fait des choses et c'est important.
Quand ils seront de retour à Chartres, à la fin de la semaine, les lycéens commenceront à monter leur film, un documentaire de 20 minutes sur leur périple, le même chemin qu'a emprunté Henri Seidenverger lors de sa déportation il y a 73 ans. Ils monteront également une exposition présentée sur la place centrale de Chartres, une manière pour eux de contribuer au devoir de mémoire.
Elle n'est pas brillante, la liberté de la presse en Albanie. Journalistes licenciés, missions interdites, pression et autocensure, rien ne va plus. Et les journalistes sont les premiers à le déplorer, Simon Rico.
Ce matin d'hiver, ils sont une centaine de journalistes rassemblés devant la mairie de la capitale Tirana. Carton rouge à la main, ces professionnels des médias dénoncent les attaques contre la liberté de la presse qui s'intensifient depuis plusieurs mois. Sur leur pancarte, on peut lire « Démocratie en danger » ou encore « Les médias ne sont pas des officines ». Dans une Albanie où la vie politique est excessivement polarisée entre le Parti socialiste et le Parti démocratique, comme le dénonce régulièrement l'OSCE, il est de plus en plus difficile d'avoir une information non partisane. La grande majorité des médias du pays sont en effet aux mains d'hommes d'affaires très proches des différents cercles politiques. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'inquiètent du rapprochement entre ces oligarques et le parti socialiste du Premier ministre Edi Rama. Il faut dire que depuis un peu plus d'un an, le gouvernement a engagé de nombreuses réformes pour mieux encadrer le droit de la presse. Criminalisation des propos diffamatoires envers les fonctionnaires, autorisation préalable obligatoire avant toute ouverture d'un média ou d'un site d'information, encadrement ferme du journalisme d'investigation. Même si plusieurs de ces projets ont été retoqués, de nombreux journalistes albanais dénoncent une tentative de museler la liberté d'expression, d'autant que les affaires de licenciements abusifs se multiplient. Face à ces pressions et à la précarité très forte dans la profession, l'autocensure est devenue un réflexe inquiétant en Albanie. Le temps où l'actuel Premier ministre Edi Rama militait pour une société plus transparente et plus démocratique semble malheureusement appartenir au passé.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Fabien Munioret. Retrouvez-nous sur le site de RFI à la rubrique magazine et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.